On va commencer une nouvelle série aujourd'hui. On a fini Esdras la semaine dernière et on commence une nouvelle série dans le Nouveau Testament avec l'évangile de Luc. Et ça va mettre toutes nos pensées vers la venue du Sauveur. Et je vous invite à chercher donc dans l'évangile de Luc les chapitres 1er et donc on va commencer notre récit au verset 26. 26 et on lira jusqu'au verset 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons apprendre de toi encore à te connaître et à vivre sous ton regard, à nous laisser conduire par ta parole, à reconnaître que c'est ton point de vue à toi, Seigneur, qui est juste, qui est vrai. Nous te demandons pour que tu éclaires encore nos cœurs sur les vérités et leur profondeur, sur ces vérités qu'on vient de lire et sur leur profondeur. Merci encore, notre Dieu, d'agir dans nos cœurs par l'action de ton Esprit Saint, Seigneur, par Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il une vérité plus surprenante que celle-ci? Quand je faisais mes études de théologie à Paris, j'ai travaillé en parallèle avec le syndicat de la vente par correspondance. Et dans les bureaux, là, on avait toujours des discussions avec mes collègues. Elles étaient intriguées par un jeune qui faisait des études bibliques, qui voulait devenir pasteur. Et un jour, cette période-là, elles m'ont parlé de Noël, qu'il fallait parler aux enfants du Père Noël parce que les enfants avaient besoin de choses extraordinaires, d'émerveillements, etc. Mais j'ai dit, mais si vous avez lu simplement le récit de Noël, pour l'émerveillement, vous n'allez pas être déçu. Vous n'allez pas être déçu. Il y a un ange qui vient, qui frappe. Bonjour Marie, tu vas être enceinte. Je ne connais pas d'homme. Aucun problème. C'est Dieu qui va s'incarner en toi. Et puis après, au moment de la naissance, c'est tout le ciel qui se couvre d'anges et qui chante. Et puis la lumière éclate en pleine nuit. Et puis un enfant né dans une crèche. Vous voulez du merveilleux, vous voulez du sensationnel. Et pourtant, toutes ces choses se sont passées, se sont déroulées dans un cadre extrêmement humble, dans de petites villes, une en Juda, à Bethléem, une autre en Galilée, à Nazareth. Je vous résume l'histoire. Il y a un ange qui est envoyé par Dieu. Jusque-là, rien de plus banal, puisque 6 mois plus tôt, il s'était déjà présenté devant un sacrificateur nommé Zacharie. Et il lui avait annoncé alors qu'il faisait son service dans le temple, à Jérusalem que son épouse Élisabeth, jusque-là stérile, allait lui enfanter un fils dans leur vieillesse et qu'il l'appellera du nom de Jean. Cette fois, l'ange se présente à Marie, à Nazareth. Nazareth, c'est en Galilée, et la Galilée, c'est une région un peu méprisée. J'ai cherché un équivalent pour Midi-Pyrénées, pour vous donner ça. Et peut-être ce serait l'Ariège, vous voyez. Je salue mes amis ariégeois. Nazareth, à l'époque, c'est une bourgade. Il n'y a rien dans cette bourgade, hormis quelques artisans et dont un charpentier qui est assez pauvre. Et l'ange se présente à une jeune fille vierge, fiancée à ce charpentier, et lui dit « Je te salue, Marie. Bonjour, Marie. Dieu t'a choisi pour mettre au monde un enfant à qui tu donneras le nom de Jésus. Il est le Fils du Très-Haut. » D'abord, elle est un peu surprise. On le saurait à moins. Elle répond, mais comment est-ce possible? Je n'ai jamais eu de relation avec un homme. Et l'ange lui explique, je sais, c'est un miracle. Dieu va créer en toi cet enfant, sans que tu n'aies eu de relation avec un homme. Pas même avec ton fiancé, Joseph. C'est pourquoi on appellera cet enfant le Fils de Dieu. Vous savez, même si ces dernières décennies, la science a fait beaucoup de découvertes en matière de fécondation et en matière de grossesse, ça fait néanmoins très très longtemps qu'on sait comment on fait les enfants. Et si ces choses sont difficiles à accepter pour nous aujourd'hui, elles ne l'étaient pas moins du temps de Luc, qui nous les rapporte ici et dans ces termes. Et Luc, c'était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a partagé avec ses compagnons et il leur dit, mettez en garde contre les fables. Il dit à Timothée, un autre de ses compagnons, « Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. » Alors, si vous pouvez un instant imaginer que c'est une fable ou un conte ou des histoires de vieilles femmes, rejetez cette pensée-là. L'apôtre Paul n'a jamais évoqué ces choses de cette manière-là. Il a au contraire demandé à ce qu'on les rejette tout le temps. Il les a combattues. Et ses compagnons ont été fidèles dans cette démarche-là. Luc nous rapporte pourtant ces choses. De plus, Luc, c'est un médecin. C'est le seul auteur grec de toute la Bible. Il a écrit une bonne part, à la fois l'Évangile, mais aussi le livre des Actes. Donc il a une contribution importante, mais c'est le seul grec. Et il est aussi médecin. Et en tant que médecin, mieux que les autres, il sait comment ça se passe pour faire les enfants. Et de plus, il a une démarche tout à fait scientifique dans son récit. Luc a fait en fait le travail d'un historien. Dans le début de notre évangile, au chapitre 1, verset 1, il est dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Il présente un récit avec autorité. Il présente son récit d'une manière factuelle et précise. Il dit dans le verset 3, « Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, et cela depuis leur origine, en ayant consulté les témoins oculaires de toutes ces choses. » Et son récit est le fruit de recherches rigoureuses, d'une investigation minutieuse, suivant une structure chronologique et puis ordonnée, comme il le dit. Si vous voulez perdre tout crédit en tant qu'historien ou en tant qu'homme de science, vous n'avez qu'à raconter des balivernes, et cela seulement une seule fois, et vous perdez tout crédit. Et pourtant, Luc, le scientifique du Nouveau Testament, si je peux dire, l'historien, il va nous rapporter ces choses exactement dans ces termes. Le premier destinataire du récit de Luc, c'est un certain Théophile. Il l'appelle excellent Théophile. Et généralement, quand les hommes sont appelés dans le Nouveau Testament, les hommes sont appelés excellents, ou son excellence, c'est pour simplement désigner quelqu'un de haut placé. C'est donc un dignitaire de haut rang. Pas en Algérie, mais de haut rang. L'objectif étant de permettre à Théophile de vérifier la fiabilité des éléments déjà en sa possession. Verset 4, il dit « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus ». Il y avait tout un tas de discours qui déjà est décrit, qui circulait concernant la venue du Seigneur et sur l'œuvre du Seigneur, sur sa passion, sur toutes ces choses. Et Théophile avait entendu ces choses-là. Il était intéressé, interpellé, mais il avait besoin de savoir, mais est-ce que c'est vraiment fiable, ces choses? Et Luc écrit à son intention pour lui dire, ces choses-là sont fiables. Tu peux vraiment mettre ta confiance dans ces choses. Aussi, lorsque Luc écrit le récit que nous étudions ce matin sur la grossesse exceptionnelle de Marie, nous pouvons admettre, comme le fait le professeur Don Carson, qui occupe la chaire du Nouveau Testament à Trinity International University près de Chicago, que Luc a probablement cherché à rencontrer Marie et parler avec elle de ces choses. Bien entendu, nous croyons que l'auteur suprême des évangiles est le Saint-Esprit lui-même. Tout ça pour dire que la vérité chrétienne repose non pas sur du mysticisme, mais sur un témoignage. La vérité chrétienne ne repose pas sur du mysticisme, mais sur un témoignage. Et nous voyons ce matin l'annonce divine qui a été faite à Marie. Et je vous propose de voir dans un premier temps le messager divin, on verra ensuite le choix divin, la bénédiction divine, et puis enfin l'enfant divin. Le messager divin, le messager qui est envoyé pour faire cette annonce divine, c'est l'ange Gabriel. Il est envoyé au sixième mois, c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, femme de Zacharie et mère de Jean-Baptiste, comme il nous l'est rappelé en verset 36. Il s'agit, comme le dit le verset 11, d'un ange du Seigneur, c'est-à-dire un messager du Seigneur. Pour une annonce divine, eh bien, il faut un messager divin. Un envoyé divin. Au verset 19, il dira à Zacharie, quand il se présente à lui dans le temple, il lui dit « Je me tiens devant Dieu ». Il dit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ». Ça signifie « Je ne te raconte pas des sornettes ». C'est-à-dire « Je me tiens devant Dieu ». J'étais devant Dieu et c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui a mis son message, son annonce dans ma dans mon cœur, dans ma bouche, pour que je puisse te les donner. Je ne fais pas ce que je veux. Je dis ce que Dieu m'a dit de te dire. Verset 26, il rappelle cela, je suis envoyé par Dieu. Dans notre manière de nous approcher de Dieu, on a aussi un messager. La parole de Dieu est un messager fiable. Et quand on s'approche de la parole de Dieu, simplement approchons-nous avec juste révérence, juste en disant, ok, c'est pas juste des hommes qui ont écrit cela. C'est Dieu qui a choisi ce moyen-là pour me parler. Et il est envoyé à Nazareth, donc petit village à environ 110 km au nord de Jérusalem. Nazareth n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Il est très probable que dans Matthieu 2:23, c'est ce passage où il nous est dit que Joseph est revenu avec Marie après la naissance de Jésus, et ils se sont réinstallés, ils avaient dû fuir de Bethléem et partir en Égypte, et puis ils sont revenus et se sont réinstallés à Nazareth. Il est dit, il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Et en fait, ici, il semble que le terme employé, Nazaréen, c'est un synonyme d'une personne détestable, méprisable. En fait, Nazareth et ses habitants avaient mauvaise réputation. C'était une ville dont on ne faisait pas cas en Israël. Vous vous souvenez, quand Jésus rencontre ses premiers disciples, Philippe va voir Nathanaël et lui dit, Nathanaël, on a trouvé le Messie, on croit avoir trouvé le Messie. Qui c'est? C'est Jésus de Nazareth. Et il répond, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous voyez le mépris qu'il y a là. Et quand Nicodème dira que en Jean 7, que voilà, est-ce qu'on peut accuser un homme là sans l'avoir entendu? Et on lui dit, mais est-ce que tu veux le suivre toi aussi? Examine, tu verras que de Galilée il vient pas de prophète. Et en cela les chefs des Juifs se trompaient. Il y a un prophète, c'est Jonas, qui vient de Galilée, mais Jésus, lui, est de Galilée. Quand il faudra convaincre Joseph de ne pas rompre avec Marie, c'est encore un ange du Seigneur, peut-être Gabriel lui-même, qui parlera à Joseph et qui le rassurera. Imaginez, ça fait 400 ans que Dieu n'a pas envoyé vers son peuple de messagers. Il y a 400 ans de silence entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. 400 ans pendant lesquels il n'y a pas un prophète qui parle. Et puis le premier qui vient, c'est un ange, et il vient là, d'abord à Jérusalem auprès de Zacharie, et puis juste après, 6 mois plus tard, auprès de Marie. Une jeune femme dans une bourgade insignifiante. Et à la fois, dans les choses de Dieu, il y a toujours la gloire qui est manifestée. Tout ça dans un cadre qui est tellement modeste, qui est tellement humble. Et Noël nous contraste tellement avec ça. Il y a la splendeur, il y a les anges, il y a la gloire, et puis il y a l'humilité de la crèche. Voilà, Dieu n'est pas venu pour frapper les regards. Il est venu pour atteindre nos cœurs. Il est venu pour se révéler à nous. Et puis voyons maintenant le choix divin. Le choix du Seigneur se porte sur une jeune femme vierge, fiancée à un homme de la maison de David, Joseph. Les fiançailles juives étaient un engagement vraiment solennel, bien plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'était plutôt semblable à un mariage, carrément, hein, les fiançailles. Seul un divorce pouvait mettre fin à des fiançailles. Les fiançailles, les fiancés étaient considérés comme étant légalement mariés, bien que l'union physique n'ait pas encore eu lieu. Et imaginez quelle a été la réaction de Joseph. Marie vient lui dire, je suis enceinte. C'est les premiers mois, les vomissements et tout ça. Je suis enceinte. Comment est-ce possible? Lui, il sait. S'il y en a un qui sait que l'enfant ne vient pas de lui, c'est lui. Et il réfléchit comme tous les hommes auraient réfléchi et comme beaucoup encore aujourd'hui réfléchissent. Ils se disent, mais bon, comment, comment est-ce que Marie a-t-elle pu commettre un tel acte? Ça ressemble pas à Marie, ça. C'est une fille, voilà, humble, pieuse. Et finalement, elle est allée coucher pendant qu'elle était déjà engagée, elle est allée coucher avec quelqu'un. Il faut comprendre que la loi, hein, en Deutéronome 22, versets 22 à 24, punissait de mort, par lapidation, une telle situation. Si une femme était prise en flagrant délit d'adultère, si un homme était pris en flagrant délit d'adultère, si une fiancée était prise en adultère pendant cette période de fiançailles, elle était simplement traînée en dehors de la ville et lapidée. Vous savez, ça gardait un certain nombre. Hein. Et Joseph, il sait que s'il fait éclater la chose, elle va être traînée dehors et elle va être lapidée. Et c'est sa fiancée. Et il est bouleversé. Il dit, je ne peux pas l'épouser, mais je ne peux pas la tuer. Et donc, il se propose de rompre légalement, mais faire la chose d'une manière discrète. Mais l'ange, à ce moment-là, le rassure et lui rappelle ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 7, et verset 14, 700 ans plus tôt, et voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà ce que l'ange lui rappelle à Joseph. Et Joseph comprend à ce moment-là que c'est lui et que c'est Marie que Dieu a choisi pour faire naître son fils. Le Messie doit naître d'une vierge. Et puis, Dieu a choisi Marie, il nous a dit, fiancée à Joseph de la maison de David. En fait, Joseph, c'est un descendant en droite ligne du roi David. Ça signifie que, en fait, David Joseph aurait dû être roi d'Israël de la même manière que David l'avait été. Mais alors pourquoi il est juste charpentier et en plus un charpentier qui réussit pas trop bien, semble-t-il. En fait, il y a eu depuis Jéconias, il y a eu, ou qu'on appelle aussi Jojaquin, roi de Juda, il y a eu une malédiction qui a frappé la royauté. Et par le prophète Jérémie, il dit, personne ne s'assiera sur ton trône, sur le trône de David. Et donc, depuis Jojaquin, il n'y a plus eu de roi sur Israël. Et ça fait maintenant presque 600 ans à cette époque-là. Marie est elle aussi une descendante de David. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le choix s'est porté sur Joseph et sur Marie. Mais Marie, elle est aussi descendante de David, mais non pas par la lignée qui a été frappée, c'est-à-dire par Jéconias et puis Salomon. Elle descend depuis David par Nathan. De sorte que sa descendance à elle n'est pas frappée par la malédiction. Joseph apporte à son fils adoptif la royauté, l'autorité royale. Et Marie apporte à Jésus la bénédiction de pouvoir s'asseoir sur le trône. Et le seul roi d'Israël qui s'assiera sur le trône depuis Jojaquin, c'est Jésus. Et ça n'est pas encore fait. Mais c'est Jésus. À l'époque de la naissance de Jésus, il y a Hérode. Mais Hérode, c'est pas un vrai juif. Et c'est pas un juif, d'ailleurs. C'est un usurpateur. C'est-à-dire que le choix de Dieu est divin. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire, il a choisi Marie et il a choisi Joseph pour s'incarner. Et c'est extraordinaire. La Bible dit, au temps marqué, Christ est né d'une femme. C'est-à-dire, c'est le temps marqué au jour J, au jour prévenu de toute éternité, au moment où tout se met en place. Dieu s'est incarné dans Marie. Et puis on voit la bénédiction divine. Le verset 28, la salutation est d'une extrême simplicité. Bonjour Marie. Bonjour Marie, le Seigneur t'a fait grâce. Une grâce t'a été faite. La seule Bible qui s'est fourvoyée dans la traduction de ce passage, c'est la Bible de Jérusalem. Elle a traduit « Toi qui es comblé de grâce, pleine de grâce », comme si Marie avait été pleine de grâce et puis les distribuait à qui voulait les voulait. C'est une erreur de traduction. Toutes les traductions traduisent « à qui une grâce a été faite ». Et le mot qui est employé ici, il est employé une autre fois dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 6, où il est dit « Il nous a prédestinés, les chrétiens, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Et le mot « charisto » est traduit ici par « favoriser ». C'est le même mot, une grâce t'a été faite. C'est-à-dire, c'est vraiment, nous sommes dépouillés de tout mérite. Et tout ce que nous avons reçu en tant que chrétiens, il nous a été donné gratuitement, sans, non pas en réponse à nos œuvres ou en quelque mérite que ce soit, mais simplement à cause de la grâce de Dieu, c'est-à-dire une faveur qui n'est pas méritée. Et quand Dieu vient se présenter devant Marie, il dit « Une faveur t'a été faite, une grâce t'a été faite, quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu es intelligente, c'est pas parce que tu connais bien l'Ancien Testament, c'est pas parce que tu vas régulièrement à la synagogue de Nazareth. Non, c'est juste parce que Dieu t'a fait une grâce. Parce que Dieu t'a pris en faveur. » Et Marie, elle s'est présentée, elle avait très bien compris la chose, elle s'est présentée comme la bénéficiaire et non comme la dispensatrice de la grâce divine. Une grâce lui est faite comme une grâce nous a été faite à nous, croyants. Dieu nous a sauvés de nos péchés. Il nous a fait grâce, c'est-à-dire nous méritions la condamnation. Et Dieu dit, au lieu du salaire de la mort, je te donne le cadeau, la faveur de la vie. C'est incroyable. Dieu nous a favorisés. La bénédiction divine, elle est là, c'est une faveur. C'est pas quelque chose qu'on peut mériter. C'est simplement à cause de l'amour, de la bonté de Dieu. Et Marie est d'abord troublé. Et on peut imaginer, mettez-vous à sa place. Ça frappe à la porte, c'est un ange. Et dit, je viens de la part de Dieu. Oh. Ah. Je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que Dieu me veut? Vous savez, le problème qui se passe dans ces cas-là, c'est que on n'a pas d'assurance en nous-mêmes. On sait que si je dois me présenter devant Dieu, lui, il connaît tout, toute ma vie. Il connaît les moindres détails de ma vie. Il connaît même les pensées de mon cœur. Celles que mon épouse n'aimerait pas connaître. Il connaît les pensées de mon cœur. Il connaît toutes mes paroles. Il connaît tous mes actes. Même ceux qui sont faits en secret. Dieu connaît toutes choses. C'est ça qui fait peur à Marie. Oh là, c'est Dieu! Et à ce moment-là, l'ange dit, ne crains pas. Ne crains pas. Dieu ne vient pas pour te faire rendre des comptes. Dieu veut t'assurer qu'il te fait grâce. Et c'est ce qu'il nous dit aussi. Il nous assure qu'il nous fait grâce en Jésus-Christ. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et Marie, c'est une jeune fille croyante, de toute évidence, mais pécheresse. Elle dit d'ailleurs dans son merveilleux cantique, au chapitre, toujours même chapitre, verset, chapitre 1, verset 46, elle dit « Mon âme exalte les seigneurs et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. » Pour que Dieu soit son sauveur, il fallait que Marie soit perdue. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur si vous n'avez pas de péché. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur si vous n'êtes pas perdu. Mais Marie se savait dans sa nature pécheresse, elle se savait perdue et elle savait qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et quand elle a été visitée par Dieu, elle dit « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur ». Elle continue en disant « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Et ça, ce n'est pas de la fausse humilité, c'est juste de l'humilité. Elle reconnaît son état, elle dit je suis juste une pauvre servante. Rien dans ce passage, nulle part ailleurs dans les Écritures, ne suggère que Marie se considérait comme immaculée, c'est-à-dire pure à l'égard du péché originel. Non, c'est plutôt le contraire qui est vrai, puisqu'elle emploie le langage caractéristique d'une personne qui voit sa seule espérance de salut dans la grâce de Dieu. Dieu seul peut faire une telle faveur. Connaissez-vous cette faveur? Connaissez-vous la grâce de Dieu? Non pas en réponse à vos mérites, mais produit de son amour. Voilà quelle est la bénédiction divine. Et puis, voyons l'enfant divin. Et on trouve ici au verset 31 à 33, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Il a encore 9 mois de grossesse à connaître. Il n'a pas encore vu le jour. Mais Dieu décrit toute l'œuvre de Jésus-Christ, tout ce qu'il va accomplir, tout ce qu'il est. Et je trouve ça merveilleux. En 3 versets, il résume toute l'œuvre de Christ. Il dit « Son nom, tu l'appelleras du nom de Jésus ». Jésus, ça signifie « Dieu est salut ». Parfois on dit « Dieu sauve ». Mais je préfère « Dieu est salut ». C'est comme « Dieu est amour ». Dieu aime, oui. Mais Dieu est... C'est plus que ça. C'est Dieu est amour. Vous voyez la nuance? Et Dieu est salut. En Luc chapitre 2, verset 11, il est dit, c'est encore les anges qui parlent, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et puis au verset 30, il est dit... Et c'est cette fois-ci, c'est Siméon qui tient l'enfant dans ses bras quand il le présente. Il a 8 jours, il vient au temple et il lui dit « Car maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il a Jésus dans les bras. Il voit qu'il est cet enfant-là est porteur de toutes les promesses de salut. « Mes yeux ont vu ton salut. » Mes yeux ont vu ton salut. Et puis au verset 38, c'est Anne, veuve, restée dans le temple aussi, elle priait jour et nuit, elle dit au verset 38, étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et ici le mot pour délivrance, c'est vraiment ce mot rachat. Rédemption, c'est la délivrance spéciale de la faute du péché. Oui, Jésus sauve, et pour ce faire, il fallait qu'il soit sans nature pécheresse. C'est pourquoi il s'est incarné. Il n'a pas été engendré. Il est né, il s'est incarné. Dans l'évangile de Matthieu, l'évangile commence avec la généalogie de Jésus. Alors, vous voilà, verset 1, il dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, etc. » Engendra, 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 engendra. Et vous continuez, verset 16. « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » La seule fois où on ne dit pas « engendré », c'est quand il s'agit de Jésus. Parce que Jésus n'a pas été engendré. Il s'est incarné. Il a pris une forme humaine. Et puis il est dit, au verset 32 dans notre passage, « Il sera grand. » Il sera grand. Aujourd'hui, tout est grand, tout est énorme. On a usé et abusé de ce mot hein, dans la bouche des jeunes. Le dernier but d'Ibra, énorme. Ou le double cheeseburger, énorme. Géant, oui, encore mieux. Ou la dernière vidéo de Norman, énorme. Ici, le mot, c'est méga. Alors, méga aussi, c'est utilisé et abusé. Mais c'est le mot, en fait, il décrit beaucoup plus que ça. Il dit splendide, magnifique, noble, excellent, puissant, éminent. Voilà comment il sera. Il sera splendide, magnifique, noble, excellent, puissant, éminent. Dans l'évangile de Jean, j'aimerais vous montrer cela, je trouve ça magnifique, verset 37, chapitre 12, verset 37, Jean 12, 37, il est dit « Malgré tant de miracles qu'il avait fait, hein, que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» De quelle citation, quel passage ? Ésaïe, chapitre 53, passage consacré à Jésus-Christ. Ok ? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Et qu'il parla, qu'il a vu sa gloire et qu'il parla de lui, de Jésus. D'accord ? Mais quand est-ce qu'il a vu sa gloire, Ésaïe ? Ésaïe, il a vu sa gloire au chapitre 6 de son livre. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Ozias, je vis un trône très élevé et l'Europe et l'Éternel. Et les séraphins qui sont autour et qui crient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. Et Isaïe il dit « Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette gloire, c'était la gloire de Jésus. » Vous imaginez la chose ? Je trouve ça magnifique. Un passage qui dit tellement, qui parle encore tellement de la divinité de Jésus, avec tellement de force. Quand on voit Jésus, on voit la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu, c'est la manifestation des attributs de Dieu. Dans l'évangile de Jean encore, au chapitre 1, au verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il dit « La parole, elle était éternelle, elle était avec Dieu, et elle s'est faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Et cette parole-là, elle est pleine de grâce et de vérité, ce sont les attributs de Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire. Quand on veut voir la gloire de Dieu, c'est la manifestation de ses attributs que l'on voit. Jésus, cet enfant, il est grand. C'est-à-dire, il est glorieux. Et puis, au verset 32, il est appelé le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut, ou alors, juste le verset 34-35 après, il est appelé le Fils de Dieu, hein, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Fils de Dieu. Ça signifie non pas que Dieu a eu des rapports comme les musulmans et parfois le mécomprennent, et qu'il a enfanté un fils, non. Il parle du Fils éternel de Dieu qui a pris forme. Et c'est-à-dire que quand il parle du Fils du Très-Haut ou du Fils de Dieu, c'est celui qui a la même essence divine que lui. Quand on dit de Jésus qu'il est le Fils de David, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est le roi légitime d'Israël, c'est ça que ça signifie. De la même manière que David était roi d'Israël, le fils de David, il est roi d'Israël, c'est-à-dire ils ont la même autorité, la même essence. D'accord? Et donc ici, il est en train de dire, il est le reflet de sa gloire. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. C'est-à-dire, il parlera comme Dieu, il agira comme Dieu, il pensera comme Dieu, il sera grand comme Dieu, il sera glorieux comme Dieu. Et puis au verset 33, il est dit, « Et son règne n'aura pas de fin. » Dans nos églises protestantes, les croix sont dépouillées de Christ. Dans les églises catholiques, les croix portent, sont des crucifix, elles portent Christ en croix. Et beaucoup voient là l'idée que finalement ils se sont arrêtés à la crucifixion, mais qu'ils n'ont pas saisi la résurrection, hein, la suite de l'histoire qui est merveilleuse. Et nous avons compris que Jésus-Christ, il est ressuscité, il est vivant, et c'est pour ça qu'il est le chef de son église et qu'il n'a pas besoin de représentants ici-bas sur terre. Mais aussi, il est dit qu'après être ressuscité, il est monté au ciel et qu'il reviendra. Et qu'il instaurera son règne sur la terre pendant 1000 ans. Et qu'après ces 1000 ans de règne, il instaurera encore des nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle nous régnerons avec lui. Le règne de Christ sera pour toujours. Pour toujours. Quand Handel a écrit le Messie, il a fait le Alléluia, et alors les choristes ici connaissent ça par cœur, ça finit de manière extraordinaire avec... je ne vais pas vous le chanter, partez pas en courant, mais je vais vous donner les paroles, c'est-à-dire « King of Kings, Lord of Lords, forever and ever. » Et ça revient. King of kings, Lord of lords, forever. Je m'emballe un peu. Hein. Forever and ever, and ever, and ever, and ever. Et Handel avait compris ça. Il dit, le règne du Seigneur, ça sera pour toujours. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Ça signifie que quand on reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, que nous sommes adoptés dans sa famille, nous régnerons aussi pour toujours avec lui. Pour toujours délivrés de la puissance du péché, parce que Jésus-Christ nous en a délivrés. Délivrés à tout jamais de toute la culpabilité qui peut envahir nos cœurs, parce que Jésus-Christ a porté toutes ces choses-là. Le péché a été englouti dans la mort, et nous sommes ressuscités avec lui. C'est cela, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est cela ce qui nous est annoncé ici. Jésus-Christ va régner. Et la première chose sur laquelle il veut régner, ce sont mon cœur. Alors, ces vérités qu'on vient de voir ce matin sont difficiles. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais quand l'ange explique ça à Marie, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il avait déjà dit ça quand Abraham a eu un fils. Il avait 100 ans et sa femme en avait 90. Et à 90 ans, normalement, t'es mort. La ménopause a fait son œuvre. C'est mort. C'est-à-dire, ça ne peut plus fonctionner. Mais rien, les anges avaient dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Et en effet, rien n'est impossible à Dieu. Comment est-ce que vous réagissez à l'annonce divine, à l'annonce de son évangile? J'imagine que Théophile a dû être affermi. Il a lu ça, et il a ouvert le livre, et dès qu'il a commencé, oh, il a dit, c'est incroyable, incroyable, merveilleux. Il a dit, c'est donc vrai, Jésus s'est incarné. Et Marie, elle, comment est-ce qu'elle a réagi? Je trouve ça magnifique. Certains commentateurs disent que Marie avait peut-être 15 ans, 20 ans maximum. Regardez la maturité de cette jeune femme. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle-même, comment est-ce qu'elle a réagi à l'annonce divine? Elle a dit, ok, parce que c'est Dieu qui le dit, alors je le crois. Comment est-ce que vous réagissez à la parole de Dieu? Quand il dit, Jésus est venu pour mourir pour toi, reçois-le dans ton cœur.